Je vous remercie de m'avoir demandé de faire ce travail, parce que c'est vraiment un cadeau. Je voudrais d'abord commencer en disant que c'est pas si facile que ça de faire ce genre d'exercice, vous le savez bien, parce que on est devant une situation caractérisée par une extrême diversité, une diversité et en même temps des évolutions. Du coup, je vais dire des choses, je vais essayer de ne pas être trop général ni trop vague, mais en même temps, je ne vais pas complètement échapper à ce risque, tant pis, je l'assume. Donc, premier point, pour rentrer dans cette synthèse, une diversité des configurations locales, car sous une même appellation internat d'excellence, on a des très grandes différences d'organisation pédagogique, le poids de l'extérieur sur l'intérieur, les dotations au personnel, le financement, avec bien entendu les conséquences sur les difficultés qu'on rencontre, les conséquences sur le public reçu, sur les solutions qu'on a imaginées, sur l'obligation aussi de composer avec les contraintes de locaux, etc. Et puis aussi sur les rectifications qui, chemin faisant, sont opérées. Dans la diversité, il y a, entre autres, la maîtrise extrêmement différente d'un endroit à l'autre du territoire, la maîtrise très différente par les internats d'excellence, ou des internats d'excellence plutôt, par les établissements. Maîtrise toute relative et toute diverse. Alors, maîtrise très relative et très diverse du recrutement. Tous les internats d'excellence ne maîtrisent pas complètement les critères de recrutement, ni même parfois le nombre à recevoir ou la liste finale. Maîtrise très différente des postes disponibles pour l'internat d'excellence. Ici, beaucoup, là, très peu. Des financements, à la fois les internats d'excellence ne semblent pas manquer de moyens, à tel point que certains n'ont pas dépensé toute leur dotation. Dans d'autres, les personnels se marchent un peu sur les pieds. Voilà. Et puis, il y a des décisions qui ne sont pas complètement maîtrisées par l'établissement. Et je ne parle pas aussi du jeu que peuvent jouer les médias locaux et les systèmes d'information public, communaux, etc. Et puis, il y a une maîtrise très différente, mais il y a des contradictions observables entre les différents niveaux qui agissent autour ou en faveur de l'internat d'excellence, entre le niveau académique, le niveau de la région, du département, de la commune, de l'établissement. Et tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il vous convient de faire. Tout le monde n'est pas complètement d'accord sur la conception de l'excellence. On a eu l'occasion d'en parler. Et au sein même de l'établissement, il y a des désaccords. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, hier. Mais il y a aussi des désaccords, voire des conflits entre le chef d'établissement et les enseignants ou certains enseignants. Et ça doit aussi être traité. Bien, donc, première remarque, cette diversité, mais ça ne fait jamais que rappeler les choses. Deuxième remarque, des évolutions après un démarrage qui a été un petit peu bousculé. Les établissements n'ont pas toujours maîtrisé leur recrutement. Il y a eu une offre très originale qui a été proposée, riche, ouverte, mais dont les établissements, d'après les débats qui ont eu lieu aujourd'hui et hier, ont montré que c'était une offre pas forcément ajustée au public qui était recruté. Et puis, encore une évolution, l'internat d'excellence, c'est, le mot le dit, un internat. Et il a pu y avoir quelquefois l'espoir du côté des parents, peut-être aussi du côté des professionnels, qu'on allait pouvoir faire une éducation totale, puisque les élèves, les adolescents sont là pendant toute la semaine, avec une certaine délégation par les parents, comme l'a évoqué hier Françoise Verserie. Mais finalement, les internats d'excellence n'étaient pas forcément préparés à cela. Donc il a fallu bouger. Il y a aussi, et ça a été encore un élément d'évolution, il y a eu un processus d'accommodation mutuelle entre les adultes et les internes. Finalement, les adultes de l'établissement ont appris à connaître ces élèves inhabituels. Et puis, les élèves ont appris aussi à se faire aux adultes qu'ils avaient devant eux et qui ne correspondaient pas tout à fait aux adultes qu'ils avaient l'habitude de rencontrer dans leur collège ou leur lycée antérieur. Voilà. Et puis, il y a eu une évolution aussi dans les idées que l'on s'est faites de l'excellence. Troisième remarque, mais c'est toujours pour entrer dans cette synthèse. Les internats d'excellence sont, ou en tout cas se veulent, un terrain d'expérimentation. Bon gré ou mal gré. C'est-à-dire qu'on le décide ou qu'on se dise, ben, de toute façon, on est embarqué. On n'a pas le choix puisqu'on est confronté à des situations nouvelles et il y a l'espoir que les internats d'excellence soient un terrain d'expérimentation. Quelqu'un a même employé hier le mot de contamination. Contamination positive, favorable, de ce qu'on pourrait inventer, mettre en place dans les internats d'excellence, au bénéfice de l'ensemble de l'école. Je rappelle juste qu'on disait exactement cela des zones d'éducation prioritaires en 1981, quand ça a été fait. Et les chefs d'établissement ont aussi dit beaucoup cela en 1991, quand a été créée l'école ouverte, et qu'on a voulu proposer des choses un peu différentes aux élèves pendant les vacances. Et alors ça a été beaucoup un discours de chef d'établissement. Ah, ça va faire bouger les profs. Bien. Il est vrai que on a là un projet qui est porté par des acteurs différents, avec des intentions différentes, voire des conceptions différentes. Donc il y a de la confrontation possible et il y a éventuellement du mouvement possible. On peut, à partir des internats d'excellence, ça a encore été dit hier, réinterroger l'école elle-même, à partir des questions que font surgir ou resurgir les internats d'excellence. Mais ça réinterroge aussi les internats eux-mêmes, dont il vient d'être question dans les interventions tout de suite. Et puis, je dirais qu'on est d'autant plus interpellé ou invité à réfléchir sur à partir des internats d'excellence qu'il y a un intérêt qui est manifesté, ça nous a été dit hier en introduction de la journée, manifesté pour les internats d'excellence par le ministère de l'Agriculture et, si j'ai bien compris, le privé est sollicité aussi pour participer à l'opération. Or, le ministère de l'Agriculture de son côté et le secteur privé de l'autre sont deux secteurs où les internats sont depuis très longtemps extrêmement développés. Et par exemple, dans l'enseignement agricole, il y a une figure professionnelle qui n'existe pas ailleurs, qui est l'enseignant socioculturel. Bon, qui est un enseignant, mais qui n'est pas que un enseignant, qui est un peu plus que ça, qui est un peu différemment. Bref. Donc, effectivement, les internats d'excellence pourraient être un terrain d'expérimentation et finalement peut-être que l'ensemble de l'école et au moins d'autres internats pourront mettre à profit ce qui aura été expérimenté dans les internats d'excellence. Alors je vais vous proposer quelques réflexions dont j'espère qu'elles pourraient être utiles, d'une part aux chefs d'établissement et d'autre part pour la recherche. Alors, utile aux chefs d'établissement et aux équipes des internats d'excellence face aux chantiers qui les attendent dans un futur proche. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais c'est que quelques-uns. Il y a le recrutement à venir. À quel niveau? Au niveau du collège, au niveau du lycée, avec quel équilibre? Quels critères? Des critères scolaires, des critères de comportement? Selon quelles procédures qui seront plus ou moins contrôlées par l'établissement? Est-ce qu'éventuellement on vise de nouvelles cibles? Il a été question de s'intéresser aux élèves de la ruralité. Est-ce qu'on va les viser de la même façon? Bien. Le recrutement à venir, ça fait partie des chantiers tout proches. La gestion des redoublements, parce qu'à la fin de cette première année, eh bien, il va bien y avoir des ratés, il va bien y avoir des redoublements, il va bien y avoir des espoirs déçus. Quelle analyse va-t-on faire de ces échecs, des abandons, voire des exclusions? On a besoin, en cours d'année, de sauver ce qui reste, mais quelle analyse fait-on de ces ratés? Et puis, encore dans les chantiers, il y a l'intégration d'une nouvelle promotion et l'augmentation du nombre d'internes d'excellence dans l'établissement, éventuellement la recomposition des équilibres entre les internes. C'est pas la même chose d'intégrer 19 internes d'excellence dans un internat où il y en a déjà 100 et d'avoir 50 internes d'excellence dans un internat où il y en a 100. Indépendamment de savoir où est-ce qu'on met les uns et les autres d'un point de vue physique. Parce que la distribution des lieux n'est pas qu'une question matérielle, c'est aussi une question lourdement symbolique. Bien, donc, j'espère que quelques réflexions pourront être utiles aux chefs d'établissement et aux équipes des internats d'excellence, et puis à la recherche, pour contribuer à faire le point dans cette étape d'un processus de recherche collective, parce qu'il y a tout un travail de réflexivité collective qui a produit, qui a conduit à des évolutions, et qui s'est aussi exprimé pendant ces deux jours. Et les chercheurs ont à faire quelque chose de ce travail de ces deux jours, et finalement, tout le monde, les équipes d'établissement, les chercheurs comme les élèves ont besoin de temps pour réfléchir et s'intégrer à cette intégrer cette expérience nouvelle et pour lui permettre de se construire peu à peu. Alors, je voudrais faire des réflexions sur quatre points, sur le travail scolaire, sur les activités proposées par l'internat d'excellence, sur la mixité et sur les métiers. Premier ensemble de réflexions concerne le travail scolaire. Alors pourquoi est-ce que je mets ça en premier? Ben parce que, en fait, en reprenant bien, et j'ai relu toutes les notes que j'ai prises pendant les deux jours, j'en ai 43 pages, le travail scolaire occupe une place considérable dans les réflexions, dans les échanges qui ont été les nôtres, et ce n'est pas complètement surprenant. Les internats d'excellence sont des établissements scolaires. Un internat, c'est un établissement scolaire, même si les élèves ne sont pas scolarisés là. Et l'espoir des élèves, l'espoir de leurs parents, c'est qu'il y ait une réussite à l'école. L'espoir des élèves, c'est de répondre aux espérances qui ont été placées en eux-mêmes, par leurs parents, par l'institution, à tel point qu'ils se chargent parfois lourdement. J'ai eu la chance d'être pris ici, c'est une chance qui m'est donnée, que j'ai saisie. Parfois, c'est un fardeau, effectivement. D'où une priorité qui est donnée par les internes, voire rappelée aux adultes par les internes, rappelée à l'encadrement par les internes. On est là pour être, pour devenir ou pour rester des élèves. Et des élèves en réussite. Et pour cela, il faut travailler. Il faut faire ses devoirs, il faut réviser, comme disaient des élèves que j'avais interviewés. Peut-être y a-t-il eu, ici ou là, dans certains internats, une sous-estimation de cette attente et de cette exigence de la part des élèves ou de la part des parents. Donc, la question, c'est travailler à l'internat. Il a été rappelé ce matin dans l'exposé concernant la forme scolaire que depuis très longtemps, le travail était externalisé en dehors de l'école. À l'internat d'excellence, le travail scolaire peut être complètement internalisé ou réinternalisé. Et on peut se rappeler là que ça fait partie quand même des responsabilités de l'école que de permettre à l'élève de faire face à ce qui est attendu de lui, lui permettre de s'approprier les savoirs. L'internat permet de supprimer cette évacuation du problème vers la maison. Et très souvent, on dit dans l'école, oui, mais les élèves ne travaillent pas, mais ils ne travaillent pas chez eux, parce qu'on leur a donné du travail à faire chez eux, et ils ne l'ont pas fait. Sans forcément qu'on s'interroge toujours sur les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait ou ils l'ont mal fait, et sans toujours que soit prise avec suffisamment de consistance la question. Qu'est-ce qui revient à nous, institutions scolaires, en la matière? Voilà, du coup, je crois qu'on peut reposer dans les établissements scolaires, et ça a été reposé au cours de ces deux jours, la question de l'articulation entre le travail à faire après la classe et le travail à faire en classe. Finalement, l'internat peut offrir un cadre, une aide, un soutien. Au fond, ça peut apporter à la fois soutien et contrôle, qui sont deux dimensions tout à fait importantes dans l'éducation. Et travailler à l'internat, ça veut dire pendant la journée et quand on est à l'internat, et il me semble préférable que le travail effectivement soit fait, oui, ait été fait, une fois qu'on rentre chez soi. C'est-à-dire quand on rentre chez soi le week-end, si on n'a plus de travail à faire, ou pratiquement plus de travail à faire, c'est sans doute bien préférable. Pourquoi? Parce que, d'une part, ça fait partie des attentes des parents. C'est que, pour eux, ça fait partie du rôle de l'école. Ça a été rappelé ce matin, ça a été rappelé hier, on fait confiance à l'école, on ne s'en mêle pas. Et donc, si nos enfants sont toute la journée à l'école et aussi toute la nuit et pendant toute la semaine, il faut que leur travail ait été fait. Et deuxième raison, c'est que, on le sait, le travail scolaire, c'est la pomme de discorde majeure aujourd'hui entre les enfants et leurs parents. C'est finalement parler à ces enfants de leur travail scolaire, surtout quand ils en ont à faire, c'est une forme d'intrusion, ça a été rappelé par le professeur Jamais tout à l'heure. Il n'est pas sûr que ce soit un très bon lien avec l'école que d'avoir à discuter du travail qui serait encore à faire. Il est peut-être plus facile de discuter de l'école avec ces enfants qui ont l'âge de l'adolescence quand cette discussion se fait sans l'ombre menaçante des devoirs qui restent à faire. Je veux bien parler de l'école avec mes parents, mais si je parle de l'école, ils vont me rappeler d'aller au boulot. Si le travail est fait, ça pacifie les relations. Alors, si le travail peut être valablement fait à l'internat d'excellence, avec qui ? Et se pose bien sûr la question des professionnels ou des adultes qui vont être là pour appuyer le travail. S'agit-il de les faire avec les adjoints d'éducation ? Il a été souligné, et on peut le souligner ici comme on le souligne ailleurs, comme on le souligne à propos de l'accompagnement scolaire, ce sont des jeunes adultes qui sont souvent pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas toujours les compétences scolaires qui leur permettraient d'aider les élèves à surmonter leurs difficultés à faire leur travail. Autrement dit, les adjoints d'éducation peuvent être très pertinents pour les études surveillées, pas forcément pour des études dirigées, pas forcément pour du travail de remédiation. Certes, on peut en avoir besoin pour faire de la surveillance, pas forcément au-delà, mais ça ne veut pas dire que jamais au-delà, parce qu'il y a des adjoints d'éducation qui ont des compétences. Il a été question dans un atelier d'un adjoint d'éducation qui avait de fortes compétences en mathématiques, puisqu'il s'était préparé à être professeur de mathématiques. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le cas de tous. Les adjoints d'éducation représentent une présence adulte, en même temps une proximité, au risque, soulignent certains parfois, de la familiarité excessive. C'est-à-dire, ce sont des adultes proches des adolescents, mais ce ne sont pas des adolescents. Et du coup, ce qui mérite d'être posé à nouveau frais, c'est au fond la question de savoir ce que, dans les différents établissements, dans les différents internats d'excellence, vous attendez des adjoints d'enseignement. Il y a des cumuls de rôles qui ne sont pas forcément pertinents. Mais bon, là, comment vous êtes confronté à des difficultés qui sont aussi des difficultés matérielles. Quelquefois, il est coûteux ou il est difficile de faire affecter des adjoints d'enseignement. Donc, quelquefois, ça a même été évoqué, un internat d'excellence s'est vu conseiller de prendre un service ville pour faire le travail d'aide aux devoirs. Bon, quelqu'un qui fait son service ville, c'est pas forcément quelqu'un qui est très compétent pour aider aux devoirs. Et puis, bien sûr, il y a la question de la pérennisation sur les emplois et la pérennisation des personnes. Si des coopérations se construisent, non sans mal, au fil des mois, au fil des années, il est très fâcheux qu'au bout de 2 ans, un adjoint d'éducation s'en aille. Donc, il y a peut-être place dans les internats d'excellence, peut-être pour préfigurer ce qui pourrait se faire ailleurs, de personnel qui soit un tout petit peu plus pérenne et dont il soit possible de les intégrer dans des équipes. Alors, je sais, je rêve un petit peu parce qu'on n'est pas tellement, dans le... dans une perspective de création de nouveaux emplois, mais tant pis, c'est aussi le jeu. Et puis, si les internats veulent être des lieux d'expérimentation, il faut bien aussi là-dessus probablement en prendre les moyens. Alors, on peut faire bien sûr le travail avec les adjoints d'enseignement, peut-être aussi avec les enseignants, mais on dispose plus ou moins d'enseignants. Il y a un plus ou moins grand nombre de postes. Alors, on a appris qu'il y avait un internat qui avait 5 postes d'enseignants dédiés à plein temps, à tel point que c'est presque beaucoup. Ils ont effectivement une compétence disciplinaire. Ils ont peut-être au moins autant, et ça plus que les adjoints d'éducation, une compréhension intime des attentes de l'école et de ce que c'est qu'apprendre. C'est-à-dire de ce que c'est que se confronter au savoir et pas simplement se confronter au devoir. On peut, quand on fait ses devoirs, se confronter au savoir. Mais faire ses devoirs, qui est une chose importante pour l'école et pour accomplir son métier d'élève, c'est pas forcément se compléter au savoir, se confronter au savoir. On peut avoir fait ses devoirs et n'avoir rien appris. C'est-à-dire qu'il faut aussi que, dans cet accompagnement, il y ait des adultes, alors adjoints d'éducation peut-être aussi enseignants, qui maîtrisent bien l'aspect pédagogique et cognitif des devoirs, et pas simplement le fait que le devoir, c'est quelque chose qu'on a à faire. Dernier point là-dessus, on soutient beaucoup les élèves dans les internats d'excellence, parfois on a l'impression qu'on les la crainte de les soutenir trop, et la difficulté, effectivement, c'est de faire l'équilibre entre ce soutien permanent et la recherche de l'autonomie, ou la promotion de l'autonomie. Comment passer de l'un à l'autre? C'est pas si simple. On peut avoir l'impression que c'est contradictoire. Peut-être y a-t-il lieu de montrer aux élèves, de leur faire comprendre aussi que se montrer de plus en plus autonome, ça ne va pas signifier qu'on va bénéficier de moins d'aide et de moins de soutien. C'est pas parce que vous êtes autonome que je ne vais pas vous aider, ou que je ne suis pas disponible pour vous aider. Parce que probablement qu'une des craintes, et ce qui fait que certains sont, l'expression a été employée au cours de ces deux jours, dans une addiction au soutien, c'est peut-être parce qu'ils ont peur que si on les lâche, on les lâche complètement. Deuxième ensemble de remarques, à partir de ce qui a été dit au cours de ces deux jours, les activités proposées par l'internat d'excellence. D'abord, on est frappé par l'éventail des activités qui sont proposées. L'éventail est effectivement très ouvert. Pourquoi ? Vraisemblablement parce que ce sont des activités qui sont intéressantes en elles-mêmes. Elles sont détendantes, elles sont amusantes. Et c'est important, on a affaire à des jeunes adolescents ou des grands adolescents. Elles sont également enrichissantes et elles peuvent éventuellement avoir des retombées sur les apprentissages. Elles peuvent proposer une façon moins scolaire d'apprendre, ça a été dit aussi. Et puis, on offre aussi beaucoup d'activités parce que ce sont des internes d'excellence qui n'en bénéficient pas ailleurs, ou ils en sont trop éloignés du point de vue culturel. Parfois, ils n'imaginent même pas que cela existe. Et comme on aimerait pouvoir offrir cela à ses propres enfants, on estime que ça peut être bien de l'offrir aux autres enfants, et ça c'est tout à l'honneur, me semble-t-il, des équipes qui les proposent. Et puis en plus, on offre beaucoup d'activités, parce que, en tout cas dans beaucoup d'internats d'excellence, on a les moyens. Il y a de l'argent quand même dans les internats d'excellence. Ce qui n'est pas d'ailleurs un mince problème politique. On aurait peut-être le temps d'en parler, mais pas le temps d'en parler. Alors, deuxième remarque sur les activités, c'est la richesse et la concurrence. Parfois, il y a trop d'activités et certaines n'ont pas de succès. On sait qu'il y a des internats d'excellence qui avaient proposé telle activité, puis il y a 3 élèves qui se sont présentés. Bon. Et il y a une concurrence pour les internes avec le travail scolaire. Pour beaucoup d'entre eux, des activités, oui, mais pas trop, parce qu'il faut prendre le temps pour le travail scolaire. Mais aussi du temps pour ne rien faire, du temps pour être seul, pour rêver, parce que rêver, ça fait grandir. Ou du temps en groupe, pour rien faire en groupe, pour rouiller ensemble, comme ils disent. Parce que c'est un moment où on se met ensemble à distance des adultes, où on met les adultes à distance. Et à ce moment-là, le rôle de l'adulte, c'est d'être alors et seulement un contenant. Pas plus. Il n'a rien à organiser, il n'a pas à s'occuper d'eux. Ça fait partie de la construction de soi des adolescents et du processus de séparation que de, justement, d'être tout seul. D'être tout seul, seul, ou d'être tout seul avec d'autres ados sans les adultes. Qu'est-ce que ça veut dire venir participer à une activité ? Ça veut dire qu'on peut avoir de l'intérêt pour l'activité qu'on pratique, et on a eu des témoignages au cours de ces deux jours d'activités dans lesquelles les adolescents ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout, dans lesquels ils se sont vraiment fortement impliqués, même si d'un groupe à l'autre, il y a pu avoir des différences assez fortes. Donc, il y a vraiment un investissement dans l'activité elle-même. Peut-être qu'il y a lieu de se demander aussi à quoi on échappe quand on choisit une activité. C'est-à-dire, quand on choisit une activité, on ne choisit pas l'autre activité. Alors vous allez dire c'est une vérité de la palisse, merci, oui. Mais on ne choisit pas l'autre activité, c'est-à-dire on ne choisit pas l'autre animateur et on ne choisit pas non plus les élèves, les autres élèves ou les autres internes qui sont dans l'autre activité. C'est-à-dire que des activités peuvent aussi être distinguées comme ça. Et puis, quelquefois, on va à une activité plutôt que de rester dans la cour, peut-être parce que l'activité est plus protectrice que la cour. Peut-être parce que on est affronté à des adversités à l'intérieur de la cour auxquelles on n'est pas affronté dans l'activité organisée et contrôlée par un adulte. Ça n'est pas contradictoire avec ce que je disais il y a deux minutes sur le besoin parfois d'être entre adolescents. Dernière remarque sur la fécondité des activités en termes de savoir. Celles qui semblent les plus fécondes en termes de savoir, ce sont les activités qui invitent à la réflexivité des adolescents. Alors, je pense aux ateliers scientifiques dont il était fait état pour les élèves de classe terminale à Langres, ou aussi l'atelier sur la justice qui a été présenté ce matin, parce que tous les élèves, d'une quinzaine de séances sont invités à réfléchir aux différents aspects de la justice, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le droit, qu'est-ce que c'est que se défendre, etc. Et on peut considérer que dans ces activités, on met en œuvre une autre façon d'accéder au savoir, d'accéder à la réflexion, mais elle ne peut pas être essentielle dans un internat d'excellence, me semble-t-il, compte tenu des élèves qui sont recrutés dans un internat d'excellence et qui sont accrochés à une certaine idée de l'apprentissage scolaire. Autrement dit, ce qui, là, fait bouger la forme scolaire peut être fécond, mais je ne suis pas certain que ce soit avec les plus insécurisés devant l'école que l'on peut bouleverser le plus la forme scolaire établie. La faire bouger, oui. La bouleverser, j'en suis pas sûr. Parce qu'ils ont besoin aussi de se raccrocher, de s'appuyer sur ce socle qu'ils connaissent ou qu'ils pensent connaître, qu'est la forme scolaire établie. Donc, il y a lieu dans les internats d'excellence d'insister, que ce soit par le travail scolaire ou par les activités, sur les savoirs. Patrick Rayou le disait ce matin, ce sont les savoirs qui font membre d'une communauté d'humains, d'une communauté d'élèves, dans lesquels on est tous, quelle que soit son origine, en face de cette invitation à apprendre, en face de cette invitation à entrer dans une histoire qui nous précède et qui nous dépasse. Et c'est important aussi, parce que je crois que les savoirs à l'internat, c'est aussi ce qui permet de s'intégrer aux autres. Ça m'amène à parler, troisième point, de la mixité dans les internats et de la mixité sociale. Je ne parle pas de la mixité entre garçons et filles. Dans les internats d'excellence, les internes d'excellence constituent en fait une minorité différente en raison du processus de recrutement, une minorité différente d'un point de vue social, ce sont plutôt des CSP pauvres que des CSP plus, une minorité du point de vue culturel, est souvent une minorité visible. Tiens, on voit arriver des enfants qui sont bronzés ou qui sont noirs dans un établissement où il y avait, l'expression a été employée, que des populations majoritaires ou que des blancs. Et à leur corps défendant, ces internes d'excellence qui arrivent essuient les conséquences de ce qui se dit, de ce qui se fait dans la société nationale ou locale, à propos des minorités visibles. Alors c'est ce que disent les parents, parfois ce que disent les autres élèves. Et ses propos ou ses réactions vis-à-vis de ces minorités visibles semblent, au fil des semaines, au fil des mois, s'estomper un petit peu. Puis ça peut ressurgir comme un réflexe archaïque s'il y a un nouveau problème. Alors, je reviens au travail scolaire. Le travail scolaire, c'est une obligation pour tous. Quels que soient les élèves, tous sont placés devant la nécessité de la mobilisation individuelle. Et insister sur le travail à l'internat, c'est aussi un moyen de travailler sur le rapprochement d'élèves différents, parce que ils sont tous devant l'invitation à se confronter au savoir, ils sont tous devant l'obligation de faire leur devoir. Ce sont des invitations ou des obligations qui sont totalement communes et partagées. Comme on est à l'internat et que les internes d'excellence ne ressemblent pas complètement aux autres, on peut être tenté par un certain entre-soi. On reste entre internes d'excellence. Alors quelquefois, la configuration des lieux, non seulement y pousse, mais l'organise. Les établissements où les internes d'excellence sont à part. Donc c'est un entre-soi. Et l'entre-soi, ça peut être fécond. Parce qu'on a besoin de temps pour prendre ses repères dans un contexte nouveau. Y compris avec les autres élèves. C'est Yves Careil qui avait fait tout un travail sur la difficulté des élèves de milieux populaires de se retrouver dans des collèges bourgeois. Alors même que ça procède d'une volonté de mixité sociale, mais une fois qu'ils y sont, eh bien, ils sont pas très très bien dans leur basket. Il y a un temps d'acclimatation, il y a un temps d'acculturation réciproque, le terme a été employé, c'est pour ça que je le réutilise, voire un temps d'accommodation, au double sens. On accommode, au sens optique du terme, on trouve la bonne distance les uns par rapport aux autres, et en même temps, on s'accommode des autres et de leurs différences. Alors, la mixité, l'entre-soi peut être fécond, ça permet une transition, ça permet une acclimatation à un nouveau contexte, si ça permet aussi, si ça facilite la séparation avec le contexte habituel, avec le contexte familial. Au fond, d'une certaine manière, on se tient au chaud. Je reprends l'expression d'un enquêté, on est dans la même galère. Et on esquive la confrontation trop rapide ou trop brutale aux autres. Puis l'entre-soi, ça permet aussi, comme on est bien identifiable, d'être pris en charge particulièrement par les adultes. Ah, ils vont veiller sur nous. Ils vont pas forcément veiller aussi bien sur les autres. D'une certaine manière, on est choyé quand on est interne d'excellence. La question devient, l'entre-soi jusqu'à quand? Sans doute pas trop longtemps, d'autant plus que ça favorise toute l'expression des jalousies, parfois des rancœurs, de ceux qui ne bénéficient pas de toutes les dotations dont bénéficient directement ou indirectement les internes d'excellence. Mais bien sûr, le problème de la mixité va conduire à rencontrer le problème des dispositions des élèves. Les élèves sont dotés par leur histoire, par leur éducation, de ce que certains appellent des habitus, des dispositions très profondes, qui sont différentes. Et dans la situation de l'internat, eh bien, on peut activer, c'est-à-dire que toutes les dispositions que l'on a en soi ne sont pas perpétuellement activées. Un peu de la même façon que dans un ordinateur, vous avez des fonctions qui ne sont pas toujours activées. Elles sont là, mais elles ne sont pas activées. Les élèves vont pouvoir activer dans l'internat un certain nombre de dispositions. Et par exemple, si ce sont des internes d'excellence qui ont été jugés sur recrutables à l'internat d'excellence ou qui ont été recrutés à l'internat d'excellence en raison de la qualité de leur comportement, ce sont des élèves qui se tiennent tranquilles, etc. Il y a de fortes chances que à l'internat, ils activent ces dispositions-là, surtout si leurs parents les ont vivement encouragés à le faire. Mais on n'est pas absolument certain que d'autres dispositions qui auraient été acquises dans la sociabilité adolescente dans leur quartier ou dans leur collège d'origine ne soient pas aussi présentes. Des dispositions peut-être plus polémiques, plus plus être dans une situation agonistique avec les autres, dans le combat, etc. Ces dispositions qui dorment peuvent être éventuellement réactivées dans une situation d'internat qui, finalement, susciterait un conflit, ou bien dans un internat où d'autres adolescents, porteurs d'autres dispositions, se comporteraient ou auraient des mots qui seraient déplaisants, voire injurieux, et qui conduiraient les internes d'excellence à activer dans leurs dispositions celles qui vont les faire réagir vigoureusement. Voilà, donc le problème de la mixité, c'est un vrai problème, et pas simplement un souhait et quelque chose qu'on peut essayer de rechercher du point de vue éthique et du point de vue politique au sens le plus élevé du terme, mais c'est une vraie difficulté qui renvoie à des histoires à la fois personnelles et collectives des différents groupes d'élèves. Et si, dans les années qui viennent, les internats d'excellence diversifient leur recrutement, et entre autres, si dans un même internat d'excellence, on retrouve à la fois des adolescents issus des quartiers populaires des villes et des adolescents issus de la ruralité, cette question devra être un tout petit peu anticipée. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les faire vivre ensemble, pas du tout. Ça veut dire qu'il ne faudra pas s'étonner si ce n'est pas très facile de faire s'arranger des adolescents qui ont des systèmes de disposition complètement différents. La gestion de la vie collective et la participation des internes peut être justement un bon moyen d'échanger, parce qu'on échange sur des choses qui nous sont communes. Et puis de toute façon, on est en phase dans les internats d'excellence d'adolescents du 21e siècle qui ne sont pas prêts à tout accepter de ce qui leur est imposé, et qui donc ont envie de débattre, peuvent avoir envie de discuter, de donner leur avis. Et on peut avoir aussi dans les internats d'excellence, et on a de fait une ambition d'une éducation qui ne soit pas que scolaire. Je disais en commençant quelque chose qui ressemble à une éducation totale, pas forcément aller jusque-là, comme dans les internats jésuites du XVIIIe siècle, mais qui soit à la fois scolaire, civique, ou dans lesquels on développe aussi la vie collective. Et je reprends l'expression que j'ai employée tout à l'heure, après avoir parlé de l'entre-soi et dit c'est fécond, l'entre-soi, parce que on est tranquille, on est sécurisé, on trouve sa place. Eh bien, la mixité, c'est bien, parce qu'on est tranquille, on est sécurisé, on trouve sa place. Et ce n'est pas forcément au même moment qu'il y a lieu de favoriser ou de laisser se faire un entre-soi et d'encourager à la mixité. Dernier ensemble de remarques, je vais bientôt finir, assurez-vous, sur les métiers. Certaines figures professionnelles particulières semblent avoir complètement émergé. Le référent pédagogique, le conseiller principal d'éducation dédié, c'est-à-dire qui ne fait que ça et qui ne s'occupe pas, par exemple, des absences, qui sont la plaie du travail des conseillers principaux d'éducation. Il y a aussi quelques enseignants dédiés qui n'enseignent pas du tout au sens habituel. Voilà, alors là, il y a toute une réflexion à avoir sur leur... au fond, qu'est-ce que c'est être enseignant dans ce cadre-là. Mais il y a aussi, pour tous les autres, des questions qui émergent par confrontation à des situations nouvelles. De ce point de vue-là, d'ailleurs, les enseignants qui sont enquêtés dans les zones d'éducation prioritaire disent un peu la même chose. Il y a des enseignants qui découvrent leurs élèves dans des activités hors classe. C'est-à-dire qu'il y a un exercice de la réflexivité dans des activités hors classe, auxquels les enseignants peuvent assister, puisqu'ils participent éventuellement à ces activités. Et du coup, ils découvrent leurs élèves sous un autre œil. Et puis, des enseignants le disent, là encore, dans les enquêtes que nous avons réalisées les uns et les autres, ils prennent conscience de ce que les élèves comprennent ou pas, grâce à un aller-retour, à un feedback qui est opéré par le référent pédagogique. Je ne m'étais pas aperçu que les élèves ne comprenaient pas ça. Je pensais que c'était tellement simple que, je ne savais pas qu'ils n'avaient pas compris. Et puis, de façon générale, on observe quand même un engagement assez large d'enseignants, pas qu'une petite équipe, d'autant plus qu'on en a les moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de se priver, quoi. Alors, j'aurais bien cité des enseignants. Je vais juste citer cette professeure de mathématiques. J'ai peut-être changé dans ma façon d'évaluer. Je prends plus en compte la progression et pas seulement le résultat brut. Et c'est un enseignant de mathématiques. Et j'insiste plus sur les méthodes. Et, ajoute-t-elle, ce qui est bon pour les élèves de l'internat d'excellence est bon pour tout le monde. Voilà. Mais je crois que j'en ai terminé avec ce que je voulais vous proposer comme retour sur ces deux journées. Et bien entendu, j'ai la conscience d'avoir trop abrégé, trop résumé. Mais c'était un petit peu la loi du genre. Je vous remercie.